Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, vous écoutez La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre émission avec le journal suivi de commentaires. Et après, vous pouvez également écouter notre rubrique L'histoire aujourd'hui qui sera continuée avec la mise au point. Le programme suivant est le magazine culturel ou Persona Indonesia qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des musiques indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie et la Hongrie renforcent les coopérations économiques. La Russie est engagée à continuer de renforcer la coopération militaire avec l'Indonésie. Selon la police, le conflit ouvert qui a eu lieu dans le cadre national pouvait causer un pays était perturbé. La force maritime de l'armée nationale d'Indonésie va renforcer le cyber. La Chambre de commerce et d'industrie ou CADIN, la politique maritime doit être optimisée. Chermin nous présente maintenant le journal complet. L'Indonésie et la Hongrie sont d'accord pour renforcer la coopération économique qui avait été établie. Le renforcement des partenariats est fait entre autres par la fusion des deux pays dans le comité économique. Il a été présenté par l'ambassadeur de Hongrie en Indonésie, Judith Németh-Pach, dans son discours lors de la commémoration de la Journée nationale de la Hongrie à Jakarta, le mercredi 2 novembre 2016. Afin de renforcer les relations économiques bilatérales, à la section suivante, la Hongrie et l'Indonésie vont se joindre à un comité économique qui aura lieu à Jakarta demain et les prochains jours. Selon l'ambassadeur de Hongrie, les relations de coopération entre l'Indonésie et la Hongrie aujourd'hui continuent d'augmenter parce que les deux pays ont la similitude de points de vue à certaines questions. En outre, l'augmentation de cette coopération ne peut pas être séparée des bonnes activités de l'investissement et le commerce qui sont menées par les entreprises dans les deux pays. Le gouvernement russe est engagé à renforcer la coopération avec l'Indonésie dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Le renforcement de la coopération dans divers domaines est très important pour les deux pays à l'avenir, il a déclaré l'ambassadeur de la Russie à l'Indonésie, Mikhail Galuzin, dans une conférence de presse sur le pont d'un navire de guerre russe, l'amiral Tribut 564 à Jakarta mercredi. Des sociétés russes exposeront divers arsenals modernes et sophistiqués à Indo-Défense 2016, a déclaré Mikhail Galuzin. L'arsenal militaire sophistiqué russe est exposé lors de l'événement comprend des modèles d'avions de combat, les navires de guerre, le véhicule de combat au sol, ainsi que le dernier système de défense aérienne russe, le S-400. Il a ajouté pour animer Indo-Défense 2016, le gouvernement russe d'apporter des navires de guerre russes, Admiral Tribut 564, qui était ancré dans le port de Jakarta International Container Terminal 2 du port Tanjung Priok, Jakarta du Nord, le lundi 31 octobre. Le chef de la police de la République d'Indonésie, le général Tito Karnavian, a déclaré que le conflit ouvert qui a eu lieu dans le cadre national pouvait causer un pays était perturbé et a perdu dans la compétition économiquement avec les autres pays. Cela a été dit par Tito Karnavian après avoir assisté au 6e Forum mondial de la paix mercredi à Jakarta. Selon lui, jusqu'à présent, l'Indonésie était bonne dans la gestion du conflit et peut continuer à développer. Pour maintenir la croissance économique, Tito a ordonné que le peuple indonésien peut maintenir l'unité et de créer des conditions pacifiques. L'Indonésie est un pays Bhinneka Tunggal Ika, cela veut dire l'unité dans la diversité. La tribu, race et intergroupe, ou SARA, de Sabang jusqu'à Merauke, est une force pour l'unité, de sorte que cela ne devrait pas être un conflit pour des raisons raciales. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef d'état-major de la Force maritime de l'Armée nationale d'Indonésie, l'amiral Ade Supandi, a déclaré que la Force maritime va renforcer l'unité et dispositif de défense cybernétique, comme l'existe également dans la validation de l'organisation au quartier général de l'Armée nationale d'Indonésie. Comme affirmé Ade Supandi en marge de la mise en œuvre Indo-Défense 2016 à Jakarta le mercredi. Indo-Défense 2016 est participé par 844 entreprises de l'Indonésie et de l'étranger, montre la nuance aérospatiale. Comme écrit Antara, la question de la mise en place de l'armée cyber de l'armée nationale d'Indonésie a été publiée par le commandant en chef de l'armée nationale d'Indonésie, le général Muldoko. Selon le plan organisationnel, l'armée cyber est directement sous le commandement du commandant en chef de l'armée nationale d'Indonésie. Le chef d'état-major de la force maritime de l'armée nationale d'Indonésie donne la priorité à renforcer la défense cybernétique adaptée à la fois et la sécurité du réseau. Le vice-président de la Chambre de commerce d'industrie, Kadin, de l'Indonésie, dans le domaine de la marine et de la pêche, M. Yogi Prayanto a déclaré que la politique du gouvernement concernant maritime devait être optimisée, notamment dans le secteur de la pêche. Les politiques gouvernementales pendant 2 ans sous le règne Joko Widodo et Yusuf Kalla dans le secteur de l'agriculture affectent la croissance de l'industrie de l'aquaculture. Selon Yogi Prayanto, les politiques liées à la pêche doivent être améliorées pour faire avancer l'industrie de la pêche. Il est d'accord avec la politique du gouvernement de résoudre le problème de la pêche illégale, mais il espère que les entreprises de pêche légale doivent être soutenues. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le commentaire et un petit titre. La réunion qui refroidit l'atmosphère de Jakarta. La tension politique en Indonésie a tendance à être plus passionnée et élevée, surtout à Jakarta, qui est un baromètre de la politique nationale avant les élections locales 2017. L'atmosphère a tendance d'être tendue dans presque toutes les parties de Jakarta et se propage à plusieurs villes à Java et en dehors de l'île de Java. En outre, certains énoncés dans le journal ainsi que les réseaux de médias sociaux éparpillés ont fait vers des questions à la sphère nationale, pas plus régionale, ce qui a conduit à la grande manifestation le 4 novembre demain. À cet égard, le président Joko Widodo a rapidement mené une réunion avec Prabowo Subianto, son opposant politique à l'élection présidentielle 2014. Après une rencontre avec le président, Prabowo a affirmé qu'il continue de fournir la critique et de la rétroaction au gouvernement de Joko Widodo, mais il est prévu pour le bien commun et le bien de l'État. Cependant, concernant le plan de la manifestation, Prabowo a dit « Toutes les parties gardent de toute intention ou des éléments qui diviseraient la nation. » D'autre part, les forces de sécurité ont été demandées à ne pas agir contre la répression des manifestantes. Cependant, le président Joko Widodo a dit, bien qu'en 2014, Prabowo soit son rival, la réunion pour le bien de la nation est nécessaire. De plus, en voyant la situation actuelle. Précédemment, le président Joko Widodo a permis les résidents de manifester liés à l'accusation de blasphème au gouverneur de Jakarta le 4 novembre demain. Mais il a demandé que la manifestation n'est pas envahissante ni destructive. L'analyste politique Yunarto Wijaya a dit que la réunion entre Joko Widodo et son rival politique Prabowo était un symbole pour montrer que la manifestation ne doit pas être manipulée par ceux qui ne sont toujours pas satisfaits des résultats de l'élection présidentielle. Une visite de Joko Widodo à la résidence de Prabowo est une étape positive dans le milieu de la température politique qui continue d'augmenter dans les élections de Jakarta, également sur les élections dans d'autres régions. Cependant, le chef de la police nationale, le général Tito Karnavian, lié au plan de manifestation le 4 novembre, a demandé à la communauté de n'être pas facilement provoquée par ce qu'a discuté aux médias sociaux. Il a également déclaré que 18 000 personnes seront déployées pour sécuriser l'action qui aura lieu devant le palais d'État. La manifestation est en effet légale à effectuer par les citoyens indonésiens car il existe déjà des lois et autres règles. Chaque manifestation doit toujours porter la mission et l'intention d'être soumis qui ont été considérés comme ne pas être entendus et canalisés par la partie considérée comme responsable. Mais si les parties prenantes prennent des mesures conformément à la loi et d'agir, il n'y aura pas d'action anarchique le 4 novembre. Parce que si cela arrive, elle endommagerait les joueurs de l'économie et affecte l'ordre de l'État qui s'était amélioré après la réforme de 1998. Cher ami, c'était le commentaire.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Ces auditeurs, auditrices du monde entier, voici le programme quotidien, l'histoire d'aujourd'hui. On va commencer le 3 novembre 1936, Franklin Roosevelt, le président des États-Unis. Franklin Delano Roosevelt est réélu président des États-Unis le 3 novembre 1936. Le président sortant démocrate remporte 46 des 48. L'État américain est victoire sans appel avec 65% des suffrages. Un écart de 11 millions de voix est obtenu avec Alfred Landon, le candidat républicain. Roosevelt entame dans le deuxième des 4 mandats qu'il aura finalement obtenu. En chance, le 3 novembre 1969, les accords du Caire permettent aux Fédayens et aux Libanais de s'attendre. Fédayens de l'ULP menés par Yasser Arafat et Libanais s'attendent lors des accords du Caire pour trouver une solution au champ palestinien qui fragilise le Liban. Après avoir subi la riposte israélienne suite aux attaques palestiniennes, vainement tentées de se débarrasser de ses SAM, le gouvernement libanais reconnaît leur extraterritorialité. Mais leur présence accroît encore les oppositions entre les communautés libanaises. Les chrétiens souhaitent le départ de Fedayeen soutenu par les musulmans, tandis que sunnites et balances chrétiens s'apprêtent à s'opposer. Des mouvements politiques contestent l'organisation du régime et réclament un système laïque. On termine le 3 novembre 1987, l'Iran Gate éclate. L'hebdomadaire libanais pro-syrien Al-Sira fait éclater l'affaire des ventes d'armes secrètes des États-Unis à l'Iran entre 1985 et 1987 en échange de missiles livrés par Jérusalem. Il s'agissait d'obtenir la libération des otages américains du Liban. Il s'agissait également de soutenir les révolutionnaires nicaraguayens, afghans et angolais, considérés alors par les États-Unis comme des défenseurs de la liberté. Chers auditeurs, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée « L'Indonésie peut devenir le plus grand pays de l'économie numérique ». L'ASEAN. Le gouvernement cible l'Indonésie comme la plus grande économie numérique en Asie du Sud-Est en 2020, en encourageant l'expansion de l'accès numérique au sein des communautés dans toutes les régions de l'Indonésie. L'élargissement de l'accès et l'utilisation des applications numériques peuvent donner la contribution concrète au développement économique de l'Indonésie sous la forme de la croissance des industries créatives. Cela a été déclaré par le ministre des Communications et de l'Information, M. Rudiantara, à la commémoration de la 71e journée de Bhakti Postal à Jakarta le dimanche 30 octobre 2016. Selon le ministre Rudiantara, le gouvernement continue d'encourager la numérisation de la société avec des services numériques qui sont de plus en plus répandus en Indonésie. Alors que les gens peuvent profiter des avantages du numérique en conformité avec l'objectif du gouvernement pour devenir le pays avec la plus grande de l'économie numérique en Asie du Sud-Est. La commémoration de la journée de Bhakti Postal est le moment pour toute la communauté des postes et des télécommunications, y compris la radiodiffusion, de continuer à fournir les meilleurs services de télécommunications abordable et reparti dans toutes les régions. Le thème de la journée de Bhakti Postal est « Révolution numérique vers l'Indonésie superbe ». Le thème de cet événement annuel est en ligne avec la vision du gouvernement en 2020 de faire de l'Indonésie comme le plus grand pays de l'économie numérique en Asie du Sud-Est. Le thème cette année vise à développer et améliorer l'utilisation des applications numériques pour soutenir le progrès économique de la nation. Cependant, le président de la journée de Bhakti Postal, M. Alexander Rusli, a déclaré que cette activité était organisée pour la première fois. Son but est de fournir des avantages plus larges à la nation sur les télécommunications nationales. Cet événement pour la communauté des postes et des télécommunications, y compris pour le grand public. Chers amis, c'était la mise au point de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. L'Indonésie et la Hongrie sont d'accord pour renforcer la coopération économique qui avait été établie. Le renforcement des partenariats est fait entre autres par la fusion des deux pays dans le comité économique. Il a été présenté par l'ambassadeur de Hongrie en Indonésie, Judith Németh-Pach, dans son discours lors de la commémoration de la Journée nationale de la Hongrie à Jakarta, le mercredi 2 novembre 2016. Afin de renforcer les relations économiques bilatérales, à la section suivante, la Hongrie et l'Indonésie vont se joindre à un comité économique qui aura lieu à Jakarta demain, et les prochains jours. Selon l'ambassadeur de Hongrie, des relations de coopération entre l'Indonésie et la Hongrie aujourd'hui continuent d'augmenter parce que les deux pays ont la similitude de points de vue à certaines questions. En outre, l'augmentation de cette coopération ne peut pas être séparée des bonnes activités de l'investissement et le commerce qui sont menées par les entreprises dans les deux pays. Le gouvernement russe est engagé à renforcer la coopération avec l'Indonésie dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Le renforcement de la coopération dans divers domaines est très important pour les deux pays à l'avenir, il a déclaré l'ambassadeur de la Russie à l'Indonésie, Mikhail Galuzin, dans une conférence de presse sur le pont d'un navire de guerre russe, l'amiral Tribut 564 à Jakarta mercredi. Des sociétés russes exposeront divers arsenals modernes et sophistiqués à Indo-Défense 2016, a déclaré Mikhail Galuzin. L'arsenal militaire sophistiqué russe est exposé lors de l'événement comprend des modèles d'avions de combat, les navires de guerre, le véhicule de combat au sol, ainsi que le dernier système de défense aérienne russe, le S-400. Il a ajouté pour animer Indo-Défense 2016, le gouvernement russe d'apporter des navires de guerre russes, Admiral Tribut 564, qui était ancré dans le port de Jakarta International Container Terminal 2 du port Tanjung Priok, Jakarta du Nord, le lundi 31 octobre. Le chef de la police de la République d'Indonésie, le général Tito Karnavian, a déclaré que le conflit ouvert qui a eu lieu dans le cadre national pouvait causer un pays était perturbé et a perdu dans la compétition économiquement avec les autres pays. Cela a été dit par Tito Karnavian après avoir assisté au 6e Forum mondial de la paix mercredi à Jakarta. Selon lui, jusqu'à présent, l'Indonésie était bonne dans la gestion du conflit et peut continuer à développer. Pour maintenir la croissance économique, Tito a ordonné que le peuple indonésien peut maintenir l'unité et de créer des conditions pacifiques. L'Indonésie est un pays Bhinneka Tunggal Ika, cela veut dire l'unité dans la diversité. La tribu, race et intergroupe, ou SARA, de Sabang jusqu'à Merauke, est une force pour l'unité, de sorte que cela ne devrait pas être un conflit pour des raisons raciales. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le chef d'état-major de la Force maritime de l'Armée nationale d'Indonésie, l'amiral Ade Supandi, a déclaré que la Force maritime va renforcer l'unité et dispositif de défense cybernétique, comme l'existe également dans la validation de l'organisation au quartier général de l'Armée nationale d'Indonésie. Comme affirmé Ade Supandi en marge de la mise en œuvre Indo-Défense 2016 à Jakarta le mercredi. Indo-Défense 2016 est participé par 844 entreprises de l'Indonésie et de l'étranger, montre la nuance aérospatiale. Comme écrit Antara, la question de la mise en place de l'armée cyber de l'armée nationale d'Indonésie a été publiée par le commandant en chef de l'armée nationale d'Indonésie, le général Muldoko. Selon le plan organisationnel, l'armée cyber est directement sous le commandement du commandant en chef de l'armée nationale d'Indonésie. Le chef d'état-major de la force maritime de l'armée nationale d'Indonésie donne la priorité à renforcer la défense cybernétique adaptée à la fois et la sécurité du réseau. Le vice-président de la Chambre de commerce d'industrie, Kadin, de l'Indonésie, dans le domaine de la marine et de la pêche, M. Yogi Prayanto, a déclaré que la politique du gouvernement concernant maritime devait être optimisée, notamment dans le secteur de la pêche. Les politiques gouvernementales pendant 2 ans sous le règne Joko Widodo et Yusuf Kalla dans le secteur de l'agriculture affecte la croissance de l'industrie de l'aquaculture. Selon Yogi Prayanto, les politiques liées à la pêche doivent être améliorées pour faire avancer l'industrie de la pêche. Il est d'accord avec la politique du gouvernement de résoudre le problème de la pêche illégale, mais il espère que les entreprises de pêche légale doivent être soutenues. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Ce soir, allez visiter Jawa Central pour faire le tourisme culinaire. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la Voix de Tunisie. Le Temple Borobudur à Magelang, Jawa Central, est l'une des 10 destinations touristiques qui sont priorisées par le ministère du Tourisme. Ce plus grand temple bouddhiste en Indonésie se compose de 6 terrasses carrées sur lesquelles il y a 3 cours circulaires. Les murs sont décorés de 2672 panneaux de ces cours et 504 statues de Bouddha qui sont originaux. Avec cette splendeur, le temple Borobudur devient une destination gagée de la province Jawa Central. Voyager pour visiter Borobudur se sent incomplet si on ne bénéficie pas de la cuisine typique de la communauté locale, Mangut Beong. Ce culinaire est vendu au restaurant situé proche du temple de Borobudur. Mangut est le plat comme gulai, aqueuse mais épicé. L'ingrédient principal de mangut est des poissons d'eau douce. Le plus populaire est le poisson chat. Mais outre le poisson chat, poisson béon est également transformé en mangut. Béon est le poisson d'eau douce, en même espèce avec poisson chat, mais avec une très grande taille. Béon est poisson endémique qui ne peut pas être trouvé dans la rivière Progo, Magelang. Le poisson béon a le nom latin Mystus nemurus, de couleur noire, et les moustaches à longue silure transversale typique. Le poisson béon est maintenant rare, mais maintenant les gens locaux commencent à cultiver le poisson béon suite à l'augmentation des visites touristiques qui veulent goûter ce plat. Le processus de cuisiner mangut beong n'est pas difficile. Commençant par le nettoyage du poisson, pour éliminer l'odeur louche de poisson beong, on utilise des feuilles d'orange. D'abord, les piments sont démembrés et sautés avec les feuilles de laurier et de l'herbe de citron dans une poêle. Le chili est délibérément coupé, palissé. Ensuite, les poissons béons sont pris avant d'être mis dans gulai. Pour faire gulai, toutes les herbes comme le curcuma, le galanga, la citronnelle, le laurier, la coriandre et le poivre sont purées, puis sautées jusqu'à ce que l'arôme flotte. Après cela, ajoutez le lait de coco jusqu'à ébullition. Ensuite, les poissons béons qui sont déjà pris sont mis dans le lait bouillant. Les poissons sont remués de telle sorte que la marinade est absorbée dans les poissons. Le temps nécessaire pour cuire mangut béong est environ 45 minutes. Quand mangé, on peut goûter instantanément les saveurs salées et épicées parce que les piments utilisés sont beaucoup. L'arôme de mangut beong est créé à partir des feuilles de citronnelle et laurier qui sont inclus lors de la cuisson de la soupe. Habituellement, mangut beong est également mangé avec des légumes pommade, légumes choux et concombres hachés avec noix de coco râpées sont assez puissants pour atténuer le goût épicé de mangut beong. Le prix de mangut beong par portion est de 20 000 à 70 000 rupiah selon la taille. Pour le prix ultime, vous pouvez obtenir un long morceau de poisson beong avec la taille de tête 15 à 20 cm. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. À demain! Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers amis, La Voix de l'Indonésie, voici le magazine de couleurs indonésiennes, édition de jeudi. Et pour ce soir, je vous présente l'information sur la fête de Nusa Dua ou Nusa Dua Fiesta. Soyez toujours avec nous sur www.voi.co.id. Zazami, Nusa Dua est une enclave contenant la grande station internationale de 5 étoiles, qui se situe au sud-est de Bali, précisément 40 km de Denpasar, la capitale de la province de Bali, ou 8 km de l'aéroport international Ngurah Rai. Le site de Nusa Dua est devenu le plus fréquemment visité par de nombreux Indonésiens ainsi que la communauté internationale, parce que dans cette région, on fait des activités ou conférences nationales et internationales. De plus, d'avoir le Fiéziateur et des hôtels de 5 étoiles, cette région dispose également de belles attractions touristiques telles que la place de Geger et l'île de Serangan. Avec tout beau panorama, ce n'est pas étonnant que la région de Nusa Dua devenue l'une des principales destinations à Bali. Chers amis, à ce novembre, la zone de Nusa Dua Bali sera emballée avec beaucoup de touristes, parce qu'il y a le festival de Nusa Dua ou Nusa Dua Fiesta. Nusa Dua Fiesta est une grande fête qui propose des variétés attractions artistiques, culturelles, culinaires, les sports et le divertissement. Cette grande partie qui aura lieu dans la zone touristique de Nusa Dua Bali du 12 jusqu'au 20 novembre 2016. Cette fête a pour but d'encourager la visite des touristes avant les vacances de la fin de l'année. Le festival de Nusa Dua auparavant a été organisé comme moyen d'appréciation de patrons d'hôtels et locataires à Nusa Dua aux visiteurs. Mais maintenant, le festival Nusa Dua se développe dans la grande partie qui présente le divertissement saupoudré avec des musiciens locaux et des pays étrangers. À Nusa Dua, on organise beaucoup plus fréquenté par les voyageurs d'affaires et les réunions officielles, etc. Donc maintenant, tu peux visiter pour voir la culture ainsi que lever celle-ci, ainsi que plus excitant pour tous les touristes. Sarjami pour cette année le festival de Nusa Dua sera animé par des artistes locaux et étrangers. Il y a un célèbre chanteur espagnol, Julio Iglesias. Il chantera au 12 novembre dans la péninsule. Les autres, jusqu'au 20 novembre, vont présenter les artistes Imelda Key, Sam Willow et Cesairi. Pendant ce temps, les musiciens locaux qui sont très connus, entre autres Malik et D'Essentiel, The Groove, Yuvia Nuno, GAC, Isyana Sarasvati et Teja Sumendra. De plus, la présentation musicale, il y a aussi d'autres événements qui seront mis en œuvre comme la course à travers trois zones différentes. Et 13 à 15 novembre, il y aura la course de Nusa Dua. Et cette activité de courir passe à travers le parc, le littoral, sur le terrain de golf. Ensuite, on organisera le champion de tennis qui aura lieu 16 jusqu'à 19 novembre. Et puis, le croix cyclisme culturel jusqu'à 23 km au 19 novembre. Puis, tournoi de golf de Nusa Dua et le marché de Green Arrow au 20 novembre. Et aussi des activités de petite et moyenne échelle à propos du développement du village touristique du 16 à 20 novembre. Chers amis, il y a aussi le concours de design de mascotte de Nusa Dua, dont le gagnant sera affiché au cours du festival de Nusa Dua. De ce festival, le comité espère que grâce à ce festival, vers de plus de 100 000 personnes ou touristes cibles seraient y visiter. Chers amis, c'était le magazine de couleur indonésien, édition de jeudi, ayant le titre « Le festival de Nusa Dua » à 1 novembre. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici des musiques indonésiennes. Et cette fois, nous allons présenter des chansons de dangdut chantées par Itje Trisnawati. Elle est une chanteuse de dangdut dans les années 80 et elle a commencé sa carrière depuis 1979. Sa popularité a été commencée après avoir chanté une chanson intitulée « Duh Engkang » dans les années 1990. Bon, cher ami, écoutons maintenant la première chanson intitulée « Chercher un partenaire ». Jangan bingung-bingung, Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter notre programme musical. Et cette fois, nous présentons des chansons de dangdut chantées par Itje Trisnawati. C'était la première chanson intitulée « Chercher un partenaire ». Le premier album a été publié en 1982, a donné le succès à l'industrie de la musique de dangdut et ouvre la possibilité de continuer à travailler dans ce domaine. Après avoir sorti le deuxième album en 1983, Itje a été aligné avec le chanteur indonésien Roma Irama. Le développement de la musique de dangdut indonésienne était plus vif avec la présence de nouveaux chanteurs. En 2001, elle a sorti un album intitulé Reok Ponorogo. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée Duh Engkang, chantée par Itje Trisnawati.
Thank you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson de Engkang chantée par Ica Trisnawati. Grâce à son succès, elle a obtenu de nombreux prix, entre autres en 1984 pour la catégorie Album Dangdut Bien Vendu, en 1988 pour la catégorie Le Nouvel Album Bien Vendu. Actuellement, elle ne sortit pas encore un nouvel album. En 1988, Ica a remporté le prix HDX pour la catégorie de meilleur album de vente pour album Duh Engkang créé par Mohtar B. Elle a également reçu le prix Cassette d'or ADX en 1999 et la meilleure vente album par album Duh Engkang vendu à plus de 1 million cassettes. En 1990, elle a reçu le prix de BASF pour la chanson Betul Apa Tidak créé par Mohtar B et le prix HDX pour la catégorie de meilleur album de vente pour album Madu Merah créé par Mohtar B. L'année suivante, en 1991, elle a regagné le prix HDX pour la catégorie La meilleure vente de nouvel album créé par Mohtar B. Et en 1992, elle a remporté un prix spécial de vainqueur 5 fois HDX en 1984, 1988, 1989, 1990 et 1991. Bon, chers amis, écoutons maintenant les deux dernières chansons intitulées Badai Biru et Miel Rouge. Tous les deux sont chantés par Ica Trisnawati. Merci à tous et à bientôt. Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, Service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.